Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Shkalim, page 17, DAF Yudzain.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Shkalim Yudzain. Nous dit la Mishnah, où est-ce qu'on se prosternait 13 fois? Nous dit la Mishnah, 4 fois au nord, 4 fois, 4 portes au sud, 3 à l'est et 2 fois à l'ouest. Quelles sont les portes qui sont du côté sud? La porte qui est la première porte, celle qui est la plus haute. Là, elle s'appelle Char Elyon. Après ça, on avait la porte par laquelle on faisait rentrer le bois Char Adelek. Après, par laquelle les Bechorot rentraient Char Abechorot. Et la dernière porte, Char Amaim, la porte par laquelle on faisait rentrer de l'eau à Soukot. Nous dira Abelézer ben Yaakov que son appellation Char Amaim, c'est aussi pour une autre raison, c'est puisque là-bas va sortir, de là-bas va sortir un fleuve quand le Mashiach va venir. Nous dit la Gemara, face à cela, il y avait quatre portes au nord, Char Yechonia, Char Korban par laquelle on faisait rentrer les Korban, notre côté Kadashim, Char Anashim par laquelle les femmes venaient se tenir à côté de leur Korban, Char Shir par laquelle on faisait rentrer les instruments. Char Yechonia, c'est la porte par laquelle Yechonia a quitté le Beth Amikdash quand il est venu se séparer du Beth Amikdash avant sa destruction. La porte qui était à l'est, c'est Char Anikaor. Il y avait deux petites portes à côté, une à gauche et une à droite. Et à l'ouest, il y avait deux portes sans aucun nom. Je dis la Gemara, là, que ces trois portes-là, ça va d'après, ces 13 portes-là, ça va d'après Rabbi Yossa ben Yochanan, mais d'après Rabbanan, il n'y avait que cette porte. Alors pourquoi est-ce qu'on pense à 13 fois? Parce que les Grecs ont fait une brèche dans le Soreg qui était autour du Beth Amikdash. Dans le galère qui avait autour du Beth Amikdash, et les Hashmonaim sont venus ont fermé ces portes là et c'est à ces endroits là qu'on devait se prosterner. Nous ramène la Gemara le pasouk où il y a marqué que de l'eau va sortir du Beth Kodesh HaKodashim. Au départ, ça va être entre la taille des antennes des escargots, mina parochet hamizbeach, ça va être de la taille des antennes de sauterelles. Après, du mizbeach jusqu'à l'azara, ça va être la taille d'un fil, de la longueur, d'un fil de longueur quand on le tisse. De la Hazara jusqu'au Beth Amikdash, c'est la taille de la largeur. Et après ça, c'est comme si on versait de l'eau d'une petite bouteille. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un petit filet. Mais juste après, il y a marqué que quand on va mesurer 1000 amas, ça va arriver aux chevilles, encore 1000 amas aux genoux, encore 1000 amas aux hanches. Et après ça, on ne pourra même plus passer. La Gemara ramène un pasouk. On voit que à la nage, on ne pourra pas passer, ni en bateau, on pourra passer. Et on ramène une preuve que ce qui est marqué dans le pasouk, mais Sahu, c'est un langage de Sriya. Autre explication, Sahu, c'est aussi un langage de Sira. C'est-à-dire que ça va être le sujet de discussion de tout le monde quand ce fleuve va sortir. Nous dit la Gemara que cette eau va être utilisée par le Yeshve Yerushalayim en tant que Mechatat pour la Paradouma et pour une Nida. Pourquoi est-ce que c'est seulement pour Yerushalayim? Parce qu'au départ, c'est défini comme une source et donc ça peut être utilisé autant pour Mechatat que pour Nida. Mais après ça, ça va être mélangé avec d'autres eaux qui ne peuvent pas être cachères pour Mechatat. Et c'est pour ça que c'est défini seulement Yerushalayim. Rabbi Lazar lui nous dit que c'est qu'après Yerushalayim, ça sera cachère ni pour la Nida ni pour le Khatat, puisque c'est de l'eau qui est en mouvement et qui est mélangée avec de l'eau de pluie. Elle n'est pas cachère non plus pour la Nida. Après ça, c'est marqué que cette eau-là va aller dans plusieurs endroits où il y a déjà une mer. Donc il y aura Agam Ahula dans le nord d'Israël, après il y a la Kinneret, après il y a Mamelach, et après la mer Méditerranée. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mutsaim? Parce qu'il a débordé deux fois, une fois d'Orénoche, une fois d'Oraplaga. Où est-ce qu'il a débordé? Premier avis, en Calabre, et après ça, au nord de l'Afrique. Deuxième avis, il est sorti au nord de l'Afrique, et la deuxième fois, il a dépassé, il est arrivé jusqu'à Akko et jusqu'à Yafo. On ramène une preuve d'un Passouk. L'Agma nous ramène que ce fleuve-là va adoucir les eaux salées de la mer et de la mer morte, et la mer de Tveria et la mer de Agam Ahula, de quoi elles vont profiter? D'avoir toutes sortes de poissons. C'est la bracha qu'ils vont recevoir grâce à ce fleuve. On ramène à ce sujet une histoire. Rashbag nous dit qu'une fois il était à Tzedam, et on lui a amené plus de 300 sortes de poissons dans un seul panier. Il est marqué que venir Pewamaim, ces eaux-là vont guérir. Et après il est marqué Velo Irapu. Donc la Gemara demande est-ce qu'ils vont guérir ou vont pas guérir. La Gemara nous dit non, en vérité, Velo Irapu, c'est un endroit, même l'eau de Velo Irapu va guérir, c'est-à-dire que ça va devenir de l'eau douce. Après ça, il est marqué dans le pasouk, Velanachal Yale Asfato. Donc de deux côtés, il va avoir des fruits, des arbres fruitiers. Lo Ibol Aleo. Donc la Gemara nous dit qu'est-ce que ça veut dire. La Chadasha Vevaker, la fin du pasouk est marqué la Chadasha Vevaker. Rabbi Yehuda nous dit qu'en général, les récoltes, elles mettent 6 mois, l'arbre, il met 1 an. Et bien ici, à partir de maintenant, l'arbre va mettre 2 mois, parce qu'il y a marqué la Chadasha Vevaker. Et donc la Torah va mettre 1 mois. Rabbi Yossi dit non, il y a un plus grand chidouche que ça. La Torah va mettre 15 jours, comme on a vu au sujet de Yoel, quand il y avait la famine, en 15 jours, tout a poussé. Et donc l'arbre va pousser, lui, en 1 mois. Ah, alors si c'est comme ça, comment est-ce que tu expliques la Chadasha Vevaker au pluriel? Chaque mois de l'année, l'arbre va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire, va aller au litroufa? Première explication de Rabbi Yochanan, c'est que tu vas manger une feuille et tu vas te sentir rassasié. Deuxième explication, c'est le marloket Rav Shmuel. Est-ce que ça va guérir ceux qui sont muets, ou est-ce que ça va guérir ceux qui n'ont pas d'enfants? Le terme de troufa, c'est les atirpé. Ça va ouvrir une ouverture, donc c'est-à-dire que c'est une ouverture qui était fermée, ou la bouche, ou l'utérus de la femme qui n'a pas encore eu d'enfant. La Gemara continue avec les portes du Beth Amikdash. Elle revient à l'histoire de Nebuchadnezzar qui est venu vers Beth Amikdash, qui était Antiocha, qui est entre la Turquie et la Syrie. Le Sanhedrin lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Ils lui ont dit « Je veux Yehoyachin ». Ils sont partis voir Yehoyachin, ils lui ont dit « Sache que Nebuchadnezzar, il te veut toi ». Yehoyachin est parti au Beth Amikdash. Il lui a dit « Écoute, jusqu'à maintenant tu avais confiance en nous, on avait les clés du Beth Amikdash, maintenant que tu n'as plus confiance en nous, alors je te rends les clés, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou alors il a jeté les clés vers le ciel, ou alors il y a une main qui est sortie qui a récupéré les clés. Quand les gens importants de Yehuda ont vu ça, ils sont montés sur leur toit, ils sont tombés de leur toit, ils sont morts, c'est ce qui est marqué, c'était une prophétie, ils sont montés de leur toit quand ils ont entendu la mauvaise nouvelle. La Mishnah nous dit qu'il y a 13 tables au Beth Amikdash, 8 tables en marbre à l'endroit où on nettoyait les intestins des animaux, 2 tables qui étaient à l'ouest du Kevesh, une en marbre et une en argent. Celle qui est en marbre, c'est pour mettre les membres qui attendent de monter. Celle qui est en argent, c'est tout simplement pour récupérer les ustensiles qui doivent être utilisés au Beth Amikdash. 2 qui étaient dans le Oulam pour le Lechem Panim. Une pour le Lechem Panim qui est en stand-by de rentrée. Une pour le Lechem Panim qu'on va faire sortir. Une était en marbre et l'autre était en or. Celle qui était pour récupérer le Lechem Panim qui était déjà à l'intérieur était en or. Puisque Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin, et la dernière table, c'était la fameuse table sur laquelle se trouvait le Lechem Panim. On dit la Gemara qu'à ce sujet, la table qui était à la sortie pour récupérer le Lechem Panim et la table qui était pour mettre le Lechem Panim qui était en stand-by de rentrée, nous on a dit qu'il était en marbre, sache qu'il est en argent. Mais d'autres émorèmes nous disent, ma pitom, il ne peut pas être en argent, puisque l'argent ça réchauffe et le pain va s'abîmer. La main du mais c'est quoi le problème? Tu sais très bien qu'il y avait un S, que le pain restait chaud après une semaine, donc c'est sûr qu'il ne s'abîmait pas. On dirait bien, mais c'est vrai, mais on n'est pas sommaire sur la S. Demande la Gemara, si jamais il en arrive à une situation où on n'a pas de pain, est-ce qu'on a le droit de laisser le Lechem Panim sur place ou pas? La Gemara vient à Pasouk, on doit laisser le Lechem Panim sur place. Mais j'ai la Gemara que Shlomo Melech a fait 10 tables. Et il les a déposés à la droite et à la gauche de celle de. Il les a déposés à la droite et à la gauche. Devant la Gemara, si tu dis que droite et gauche, c'est nord et sud, donc ça voudrait dire qu'il y a des tables au sud, et la table ne peut être cachée que quand elle est au nord. Donc la Gemara nous dit non, forcément, droite et sud, droite et gauche, c'est forcément à droite et à gauche de la table de Moshe, comme la Gemara va expliquer. Bien que il y avait ces 11 tables, le pain était déposé que sur la table de Moshe, premier avis, deuxième avis, le pain était déposé sur toutes les tables, on a vu qu'il y a une marque loquette, est-ce que c'est sur toutes les tables en même temps ou chaque fois une autre table? La Gemara nous dit que les tables étaient posées de l'est vers l'ouest. Donc, c'est-à-dire qu'elles étaient l'une après l'autre de l'est vers l'ouest. D'après Rabbi, Rabbi Lézard nous dit non, c'était au nord et au sud. Demande la Gemara, mais si c'est au nord et au sud, donc on a un problème, puisqu'elles vont être au sud et elles ne peuvent pas être au sud. Si c'est de l'est à l'ouest, il n'y a pas de problème. Mais si c'est au nord et au sud, une table ne peut pas être au sud. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'il y avait 13 portes au Beth Amikdash. Et à chaque porte, on avait un endroit où on devait se prosterner. On a expliqué quelle était l'appellation de chaque porte. On a vu qu'il allait y avoir un fleuve qui allait sortir du Kodesh HaKodashim et qui allait aller dans tout Israël, qui pourrait être utilisé en tant que mikvé pour certaines choses à Yerushalayim et pour d'autres choses en dehors de Yerushalayim, qui allait rendre toutes les eaux salées en eau douce, qui allait permettre d'avoir plus de sortes de poissons dans toutes ces eaux, des fruits qui allaient pousser sur le bord, les fleurs de ces arbres fruitiers seraient considérées comme des médicaments pour toutes sortes de problèmes. Et on a vu aussi qu'au lieu d'avoir 6 mois et 1 an de devoir pour les récoltes des céréales et des arbres, on allait avoir 1 mois et 2 mois ou 15 jours et 1 mois. On a vu aussi que Yehoyachin a rendu les clés et Akadosh Baruch Hu les a récupérées. Quand les gens de Yehuda ont vu ça, ils ont très mal pris la nouvelle. 13 tables, il y avait au Beth Amikdash, 8 pour dépecer les animaux, 2 qui étaient à côté du Mizbeach, une pour attendre pour que les ustensiles qu'on allait avoir besoin aujourd'hui soit là, une seconde pour laisser les choses qui étaient en stand-by de monter sur le Mizbeach, 2 pour le Lechem HaPanim, une pour celui qui allait rentrer, l'autre pour celui qui allait sortir, et une dernière, le fameux Lechem HaPanim. On a une marque loquette, comment est-ce qu'ils étaient placés? On a réfuté que d'après un avis qui disait du nord au sud, entre le nord et le sud, donc on aurait des tables qui seraient au sud, donc en vérité, les tables étaient posées entre le nord et l'est, le Daf éclair Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.